2. Il vaut mieux que tu évites de penser fort, quoi qu'il en soit, dit le nouveau venu en s'approchant. Il savait que tu étais ici, et Roland est un sacré rusé. Il est gâche de là, on peut le dire. Autrefois, il m'a rattrapé, tu sais, et j'ai bien cru que j'étais perdu. Vraiment, je l'ai cru. L'homme qui se faisait parfois appeler Flag, à un autre niveau de la tour, il avait conduit un monde entier à la destruction sous ce nom, avait sorti de son gouna des crackers et du beurre de cacahuète. Il avait demandé l'autorisation de son nouveau Dean, et le bébé, bien qu'affamé lui-même, avait hoché royalement la tête. À présent, Walter était assis en tailleur sur le sol, à manger rapidement, à l'abri de son bonnet de pensée, inconscient de cet intrus qui s'était glissé en lui et qui pillait tout ce qu'il savait. Il n'avait rien à craindre tant que le pillage n'était pas achevé, mais après ça... Mordred brandit une petite main rondelette et esquissa gracieusement dans l'air un point d'interrogation. « Comment je me suis enfui ?» demanda Walter. « Eh bien, j'ai fait ce que tout véritable causeur aurait fait en pareille circonstance. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai montré la tour, du moins plusieurs niveaux de la tour. Ce qui l'a abasourdi, purement et simplement, et tant qu'il était ainsi ouvert, j'ai prélevé une page de son propre livre et je l'ai hypnotisé. Nous nous sommes retrouvés dans une de ces fistules du temps qui tournoient parfois autour de la tour, et le monde changeait tout autour de nous, tandis que nous palabrions dans ce lieu d'ossements, si fait. J'ai apporté d'autres ossements, des ossements humains, et pendant qu'ils dormaient, je les ai habillés de ce qu'il restait de mes propres vêtements. J'aurais pu le tuer, alors, mais que serait-il advenu de la tour si je l'avais fait, hein? Et de toi, pendant qu'on y est? Jamais tu ne serais venu au monde. Il est juste de dire, Mordred, qu'en laissant Roland en vie et en lui permettant de tirer ses trois cartes, je t'ai sauvé la vie, et ce, avant que cette vie soit même conçue. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis enfui jusqu'au rivage. J'avais bien besoin de vacances. Et quand Roland y est arrivé à son tour, il est parti dans une direction vers les trois portes. Je suis parti dans l'autre. Mordred, mon cher, et me voici. Il éclata de rire, faisant voler les miettes de crackers sur son menton et sa chemise. Mordred sourit. Mais intérieurement, il était révolté. C'est avec ça qu'il était supposé faire équipe? Avec ça? Ce gobeur de crackers crachant ses miettes, trop imbu de ses propres exploits passés pour sentir dans quel danger il se trouvait, ou mesurer combien ses défenses étaient entamées? Par tous les dieux, il méritait de mourir. Mais avant d'y veiller, Mordred avait besoin de deux autres choses. La première était de savoir où étaient partis Roland et ses amis. La seconde était de se nourrir. Et ce crétin lui serait utile pour les deux. Et qu'est-ce qui allait lui faciliter le travail? Eh bien, le fait que Walter se faisait trop vieux. Vieux et d'une assurance infecte, et trop vaniteux pour s'en rendre même compte. Tu te demandes sans doute pourquoi je suis ici et non pas en train de mener les affaires de ton père, n'est-ce pas ? Fit Walter. Ce n'était pas le cas, mais Mordred n'en hocha pas moins la tête. Son estomac gargouillait furieusement. En réalité, c'est ce que je fais en ce moment, dit Walter en esquissant son sourire charmeur, quelque peu gâché par le beurre de cacahuète sur ses dents. Il avait dû savoir autrefois que toute affirmation qui commence par « en réalité » est presque toujours un mensonge. Plus maintenant, il était trop vieux pour le savoir, trop vaniteux pour le savoir, trop stupide pour se le rappeler. Mais il n'en demeurait pas moins prudent. Il sentait la force de cet enfant, dans sa tête, en train de fourrager dans sa tête, Certainement pas. Cette chose enfermée dans ce corps de bébé était puissante, mais sûrement pas aussi puissante. Walter se pencha en avant d'un air sérieux en serrant les genoux. Ton père rouge est indisposé. C'est la conséquence du fait d'avoir vécu si longtemps, si près de la tour, et d'y avoir pensé si fort, je n'en doute pas. Il dépend de toi d'achever ce qu'il a commencé. Et je suis venu t'aider dans cette tâche. Mordred opina du chef comme s'il était content. Il était content. Mais oh, il avait tellement faim aussi. Tu as pu te demander comment je t'ai rejoint dans cette chambre censément sécurisée, ajouta Walter. En réalité, j'ai contribué à bâtir cet endroit, il y a bien, bien long, comme dirait Roland. Encore cette expression, aussi explicite qu'un clin d'œil. Il avait placé l'arme dans la poche gauche de sa parka. Maintenant, de la droite, il extirpa un gadget de la taille d'un paquet de cigarettes, en sortit une antenne argentée et appuya sur un bouton. Un pan de carreau gris glissa en silence, révélant une volée de marches. Mordred hocha la tête. Walter, ou Randall Flagg, si c'est ainsi qu'il se faisait généralement appeler, était bien apparu du sol. Une ruse géniale, mais il avait autrefois été le magicien de cour de Stephen, le père de Roland, n'est-ce pas? Sous le nom de Martin. L'homme, aux multiples visages et aux multiples ruses, voilà ce qu'était Walter Odim, mais pas aussi malin qu'il le croyait, loin de là. Car Mordred possédait à présent la chose ultime qu'il cherchait, à savoir le moyen par lequel Roland et ses amis étaient sortis d'ici. Plus besoin d'aller le déterrer dans l'esprit de Walter, finalement. Tout ce qu'il avait à faire, c'est suivre la piste de cet imbécile. Mais avant ça, cependant... Le sourire de Walter s'était quelque peu estompé. «
Vous avez dit quelque chose, sire ? Car il m'a semblé entendre le son de votre voix dans un coin de ma tête. »
Le bébé secoua la tête. Et qui a l'air plus sincère qu'un bébé ? Son visage ne reflète-t-il pas l'essence même de la candeur et de l'innocence ?
Je veux bien t'emmener avec moi et les prendre en chasse, si tu veux m'accompagner, reprit Walter.
Quelle équipe nous ferions ? Ils sont partis par le devartois de Tonnefoudre, relâcher les briseurs. J'ai déjà promis de retrouver ton père blanc et son cathète, s'ils osaient s'aventurer plus loin, et j'ai bien l'intention de tenir cette promesse. Car entends-moi bien, Mordred. Le pistolero Roland des chaînes m'a fait face à chaque tournant et je n'en supporterai pas plus. Pas une seconde de plus. Tu m'entends ?
De rage, sa voix était montée d'un cran. Mordred hocha la tête d'un air innocent, écarquillant ses jolis yeux de bébé en une expression mimant la peur, la fascination, peut-être les deux. Et Walter Odim semblait s'enorgueillir de ce regard, et la seule question à présent, c'était quand le prendre ? Maintenant ou plus tard ? Mordred avait très faim, mais il se dit qu'il essaierait de tenir encore un petit moment. Observer cet imbécile, le regarder sceller les dernières secondes de sa destinée avec une telle sincérité, avait quelque chose de fascinant. Une fois encore, Mordred dessina un point d'interrogation dans l'air. Le dernier vestige de sourire disparut des lèvres de Walter.
« Ce que je veux vraiment, c'est ce que tu demandes ?»
Mordred fit oui de la tête.
« Ça n'a rien à voir avec la tour sombre, si tu veux tout savoir. C'est Roland qui occupe mes pensées et mon cœur. Je veux le voir mort. »
Walter s'exprimait sur un ton irrévocable, sans sourire. « Pour ces lieux poussiéreuses sur lesquels il m'a pourchassé, pour les ennuis qu'il m'a causés, et pour le roi rouge aussi,
le véritable roi, tu intuites. Pour son orgueil, a refusé d'abandonner sa quête, peu importe les obstacles placés sur son chemin, et surtout pour la mort de sa mère, que j'ai aimée jadis. Puis, à mi-voix, ou que j'ai convoité, du moins. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui l'a tuée. Mais peu importe quel rôle Rhea du Chaos et moi avons joué, c'est le garçon lui-même qui a mis fin à sa vie. Avec ses damnés pistolets, sa tête lente et ses mains rapides.
Pour ce qui est de la fin de l'univers, je suggère qu'on la laisse venir par la glace, par le feu ou par les ténèbres. Qu'est-ce que l'univers a fait pour moi pour que je regrette sa disparition? Tout ce que je sais, c'est que Rolante de Gilead a déjà vécu trop longtemps et que je veux voir ce fils de pute 6 pieds sous terre. Et ceux qu'il a tirés comme compagnons aussi. Pour la 3e et dernière fois, Mordred dessina un point d'interrogation suspendu. Il n'y a qu'une seule porte en état de marche entre ici et le Devartois, jeune maître. C'est celle que les loups utilisent, ou utilisaient. Je pense qu'ils ont fait leur dernière excursion néanmoins. Voilà ce que je pense. Roland et ses amis en ont réchappé, mais ce n'est pas grave. Ils auront tout ce qu'il faut pour les occuper là où ils débarqueront. Ils trouveront sans doute l'accueil un peu chaleureux. Peut-être même qu'on pourra prendre soin d'eux quand ils auront à s'inquiéter des briseurs, de ce qu'il reste des enfants de Roderick et des véritables gardes du guet. Ça te plairait ? Le nourrisson fit oui de la tête, sans l'ombre d'une hésitation. Il porta alors les doigts à sa bouche et se mit à les mâchouiller. « Oui, » fit Walter, dégainant de nouveau son sourire éclatant. « Tu as faim, bien sûr. Mais mon petit doigt me dit qu'on peut trouver mieux que des rats et des bafous bafouilleux à peine sevrés en guise de dîner. N'est-ce pas ?» Mordred acquiesça de nouveau. Son petit doigt lui disait la même chose. « Veux-tu que je joue le gentil pas et que je te porte ?» demanda Walter. « Comme ça, tu n'auras pas à te retransformer en araignée. » « Burk, pas facile d'aimer cette apparence-là. Ni même de la tolérer, pour tout dire. » Mordred tendait déjà les bras. « Tu ne vas pas me chier dessus, n'est-ce pas ?» demanda Walter d'un air détaché, s'arrêtant à quelques pas de l'enfant. Il glissa la main dans sa poche et Mordred se rendit compte avec une pointe d'angoisse que ce salaud de fourbe lui cachait quelque chose depuis le début. Il avait compris que son soi-disant bonnet de pensée était inefficace. Donc il projetait de se servir de son arme finalement. 3. Le fait est que Mordred accordait bien trop de crédit à Walter Odim. Mais n'est-ce pas là un trait commun à la jeunesse? Peut-être même un moyen de survie? Pour un goujat ouvrant des yeux écarquillés sur ce monde, les ruses grossières du plus gauche des prestidigitateurs prenaient des airs de miracle. Walter ne comprit pas pleinement ce qui se passait avant que la partie soit bien engagée. Mais c'était un survivant rusé comme un renard, je dis vrai, et lorsqu'il comprit, il comprit tout d'un seul coup. Prenez cette expression, l'éléphant au milieu du salon, qu'on utilise pour décrire la vie avec un toxicomane, un alcoolique ou un auteur de sévices. Les gens qui n'ont pas connu ce genre de relation vous demanderont parfois « Comment avez-vous pu laisser cette situation durer pendant toutes ces années? Vous ne voyez donc pas l'éléphant au milieu du salon? Et il est tellement difficile pour quelqu'un qui baigne dans un environnement normal de comprendre la réponse qui se rapproche le plus de la vérité. Désolé, mais il était déjà là quand j'ai emménagé. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un éléphant, j'ai cru que ça faisait partie des meubles.
Et il y a le moment, où certains, les plus chanceux, ouvrent les yeux et où la différence leur saute subitement aux yeux. Et ce moment était venu pour Walter. Venu trop tard, mais pas de grand-chose.
Tu ne vas pas me chier dessus, n'est-ce pas ? Telle fut sa question.
Mais entre les mots « chier » et « dessus », il comprit soudain qu'un intrus s'était introduit chez lui et qu'il était là depuis le début. Et ce n'était pas un bébé, mais un adolescent, un grand échalas qui penchait la tête, le visage marqué par l'acné et des yeux trahissant une curiosité morne. C'était sans doute la vision la meilleure et la plus fidèle que Walter pouvait livrer de Mordred Deschaine, tel qu'il se montrait à cet instant. Un jeune délinquant entré par effraction et qui s'était sans doute shooté avec un truc en bombe. Et il était là depuis le début. Bon Dieu, comment avait-il pu passer à côté? Ce voyou ne se cachait même pas. Il se trouvait là, ouvertement, debout, appuyé contre le mur, la gueule béante et prenant tout. Ses projets d'emmener Mordred avec lui. De l'utiliser pour mettre fin à la vie de Roland, si les gardes du Dévertois ne s'en chargeaient pas avant, évidemment. Puis de tuer ce petit bâtard et de prélever son précieux pied gauche, s'écroulèrent instantanément. La seconde d'après, un nouveau plan se fit jour, la simplicité incarnée.
Je ne dois pas lui laisser voir que je sais. Un coup, c'est tout ce que je peux m'offrir. Et encore, c'est seulement parce que je dois prendre le risque. Puis je m'enfuis. S'il est mort, tant mieux. Sinon, il finira bien par mourir de faim.
Et c'est alors que Walter se rendit compte que sa main n'avait pas bougé. Quatre de ses doigts saignaient la crosse de son arme dans la poche de sa veste. Mais il s'était immobilisé. L'un d'eux tout près de la détente, mais il était dans l'incapacité de le bouger. Comme si on l'avait coulé dans le béton. Et à présent, Walter voyait clairement pour la première fois le filament scintillant. Il surgit de la bouche rose et édentée du bébé, assis sur sa chaise, traversa la pièce en miroitant au milieu des lumières, puis l'encercla, lui, à hauteur de la poitrine, lui collant les bras au corps. Il concevait bien que ce filament n'était pas réellement là. Pourtant, en quelque sorte, si. Il ne pouvait plus bouger. 4. Mordred ne vit pas le filament scintillant. Peut-être parce qu'il n'avait pas lu Watership Down. Il avait pourtant eu l'occasion d'explorer l'esprit de Susanna. Et ce qu'il voyait en ce moment même ressemblait étrangement au Dogan de Susanna. Sauf qu'au lieu d'interrupteurs portant les mentions « petit gars » ou « temps émotionnel », il vit ceux qui contrôlaient les déplacements de Walter, qu'il plaça immédiatement sur zéro, ainsi que ses réflexions et ses motivations. Il s'agissait sans nul doute d'une configuration plus complexe que celle dans la tête du bébé bafouilleux. Il n'avait trouvé là que quelques nodules simples, comme des nœuds plats, mais rien de trop difficile à manipuler. Le seul problème, c'est qu'il n'était qu'un bébé. Un foutu bébé coincé sur une chaise. Et s'il voulait vraiment transformer cette boucherie sur pâte en assiette anglaise, il lui fallait faire vite. 5. Walter Odim n'était pas trop vieux pour se montrer encore crédule. Il le comprenait à présent. Il avait sous-estimé ce petit monstre. Il s'était trop fié à ses apparences, négligeant ce qu'il savait de cette créature, mais du moins pouvait-il éviter cet écueil de la jeunesse, la panique totale.
S'il a l'intention de faire quoi que ce soit à part rester assis sur cette chaise à me regarder, il va falloir qu'il se transforme. Et alors il aura moins prise sur moi. Ce sera son unique chance. Ça n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'il me reste.
À cet instant précis, il aperçut une lumière rouge éclatante, balayant la peau du bébé des orteils jusqu'au sommet du crâne. Dans son sillage, le corps rose et rebondi du babot se mit à s'assombrir et à gonfler. Les pattes d'araignée jaillirent de ses flancs. Au même moment, le filament scintillant qui sortait de la bouche du nourrisson disparut, et Walter sentit la sangle qui l'étouffait se desserrer.
Pas le temps de prendre même le risque d'un seul coup de feu. Plus maintenant.
Cours, fuis cette chose. C'est tout ce que tu peux faire. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu as laissé ta haine du pistolero t'aveugler, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Alors que ses pensées fusaient à travers son esprit, il se tourna vers la trappe et il s'apprêtait à poser le pied sur la première marche lorsque le filament scintillant réapparut. Cette fois-ci, il ne lui en serra pas la poitrine, mais immédiatement la gorge, comme un garrot. Haletant et crachant, les yeux saillants de leurs orbites, Walter fit volte-face en chancelant. Autour de son cou, la boucle se resserra insensiblement, et il sentit comme une main invisible lui balayer le front et faire basculer sa capuche en arrière. Il s'était toujours habillé de la sorte, autant que possible. Dans certaines provinces du sud de Garlan, on le connaissait sous l'identité de Walter Oji, le dernier mot signifiant à la fois dîme et capuche. Mais cette tenue-ci, empruntée dans une demeure déserte de French Landing dans le Wisconsin, ne lui avait vraiment pas porté bonheur, pas vrai? Peut-être que me voici finalement arrivé à la clairière au bout du sentier, se dit-il en voyant l'araignée lui fondre dessus, avec ses sept pattes, cette chose vivante et bouffie, plus vivante que le bébé s'y fait, et au moins 4000 fois plus laide. Avec cette excroissance monstrueuse sur le dos, cette tête humaine qui scrutait le monde depuis son promontoire poilu. Sur le ventre, Walter aperçut la marque rouge qui se trouvait sur le talon du bébé. Elle avait pris une forme de sablier, comme celle que porte la veuve noire femelle, et il comprit que c'était cette marque-là qu'il recherchait. Tuer le bébé et l'amputer de son pied n'aurait sans doute servi à rien. Apparemment, il s'était trompé sur toute la ligne. L'araignée bascula sur ses quatre pattes arrière. Les trois de devant se mirent à tripoter le jean de Walter dans un bruit de déchirure lent et épouvantable. Les yeux saillants de la chose se fixèrent sur lui avec cette curiosité de l'intrus qu'il s'était déjà imaginé avec une précision douloureuse.
« Oh oui !» J'ai bien peur que ce soit la clairière au bout du sentier, pour toi. »
Cette voix gigantesque dans sa tête, qui lui fracassait le crâne, comme à l'intérieur d'un haut-parleur.
« Mais tu me réservais le même sort, pas vrai ?»«
Non,
du moins pas tout de suite. Mais c'est ce que tu voulais. Ce n'est pas à un baratineur qu'on apprend à dire des conneries, comme dirait Susanna. » « Alors voici que je fais une petite faveur à celui que tu appelles mon père blanc. Tu n'étais peut-être pas son plus grand ennemi, Walter Paddick, comme on t'appelait lorsque tu parus il y a bien bien long. Mais tu étais le plus ancien, je te l'accorde. Et aujourd'hui, je t'écarte de son chemin. »
Walter n'avait pas mesuré qu'il s'accrochait encore à une lueur d'espoir. Il ne l'avait pas mesuré avec cette chose ignoble en face de lui, dressée sur ses pattes arrière, et qui le contemplait avec des yeux mornes et affamés et les babines luisantes de salive. Il ne l'avait pas mesuré jusqu'au moment où il entendit, pour la première fois depuis un millier d'années, le nom d'un garçon originaire d'une ferme de Delaine. Walter Paddick. Walter. Fils de Sam le Meunier, de la baronnie de Grand Est. Celui qui s'était enfui à 13 ans, qui s'était fait violer par derrière par un autre vagabond 1 an plus tard et avait pourtant résisté à la tentation de rentrer chez lui en rampant. Au lieu de quoi il avait changé de décor et poursuivi sa destinée. Walter Paddick. Au son de cette voix, cet homme qui s'était parfois fait appeler Martin, Richard Fanin, Rudine Filaro et Randall Flagg, entre autres très nombreuses identités, abandonna tout espoir sauf celui de bien mourir.
J'ai faim. Mordred, l'eau faim.
Scanda la voix implacable à l'intérieur de la tête de Walter, une voix qui venait à lui par le biais du filament scintillant de la volonté du petit roi.
« Mais je veux manger comme il faut, en commençant par les amuse-gueules. Tes yeux, je pense. Donne-les-moi. »
Walter se débattit vigoureusement, mais sans grand succès. Le filament était trop puissant. Il se vit lever les mains et les agiter devant son visage. Il vit ses doigts s'arrondir en forme de crochet. Ils relevèrent ses paupières comme des stores, puis vidèrent les orbites en pénétrant par le dessus. Il entendit très distinctement le bruit que produisirent ses propres doigts en arrachant les tendons qui permettaient à ses yeux de bouger, et les nerfs optiques qui relayaient tous ces messages fabuleux. Le son qui marqua la fin de sa vision fut sourd et mouillé. Des éclairs rouges vifs de lumière envahirent tout son crâne, puis les ténèbres s'engouffrèrent pour l'éternité. Dans le cas de Walter, l'éternité serait de courte durée, mais si l'on peut dire que la durée est une notion subjective, et la plupart d'entre nous le savent bien, alors elle fut bien trop longue.
« Donne-les-moi, je dis. Fini de tergiverser, j'ai faim. »
Walter Odim. Maintenant, Walter aux ténèbres retourna les mains et lâcha ses yeux. Ils entraînèrent des filaments sanguinolents, prenant des apparences de têtards. D'une pichenette, l'araignée en fit sauter un en l'air, l'autre alla rebondir sur le sol, où une pince étonnamment agile à l'extrémité d'une patte le ramassa et le fourra dans la gueule de l'animal. Mordred le goba comme un grain de raisin, mais sans l'avaler. Il préféra laisser le jus délicieux dégouliner dans sa gorge. Charmant.
Maintenant, la langue, s'il te plaît.
Walter enveloppa une main obéissante autour de sa langue et tira, mais ne réussit qu'à la détacher partiellement. L'extrémité était trop glissante. Il en aurait pleuré de torture et de frustration si les orbites sanglantes vidées de ses yeux avaient pu produire des larmes. Il s'y reprit une deuxième fois, mais l'araignée était trop impatiente pour attendre.
« Penche-toi, tire la langue comme si tu allais lécher le con de ta chérie. Dépêche-toi au nom de ton père, Mordred a faim. »
Walter, encore trop conscient de ce qui lui arrivait, se débattait contre cette horreur si vive avec aussi peu de succès que contre la précédente. Il se pencha en avant, les mains appuyées sur les cuisses et la langue en sang pendant de guingois entre ses lèvres, s'agitant avec lassitude, tandis que les muscles au fond de sa bouche, baignant dans leur hémorragie, tentaient vainement de la tenir accrochée. Une fois encore, Walter entendit le bruit de déchirure, alors que les pattes avant de Mordred grattaient son jean. La gueule poilue de l'araignée se referma autour de la langue de Walter, se mit à la sucer comme une friandise pendant une ou deux secondes d'extase, puis l'arracha d'un seul coup de tête. Walter, réduit à la cécité et au mutisme, n'émit qu'un unique hurlement de douleur et bascula, tenant son visage déformé entre ses mains, se balançant d'avant en arrière sur les carreaux. Mordred mordit la langue dans sa bouche. Elle éclata dans une gerbe de sang voluptueuse qui balaya momentanément toute velléité de pensée. Walter avait roulé sur le côté et cherché la trappe à tâtons, obéissant à cette petite voix à l'intérieur qui lui disait de tenir bon, d'essayer d'échapper au monstre qui le dévorait vivant. Une fois le goût du sang dans sa bouche, Mordred perdit tout intérêt pour les préliminaires. Il se trouvait réduit à son expression la plus instinctive, l'appétit. Il bondit sur Randall Flagg, Walter Odim, Walter Paddick, qui fut. Il y eut encore des cris. Mais rien que quelques-uns. Et c'est ainsi que disparut le vieil ennemi de Roland.
6. Cet homme, qui avait été quasi immortel, expression au moins aussi stupide que des plus uniques, fit un repas légendaire. Après avoir baffré de la sorte, le premier réflexe de Mordred, un réflexe puissant mais pas insurmontable, fut de vomir. Il le maîtrisa comme il maîtrisa son réflexe suivant encore plus fort, reprendre sa forme de bébé et dormir. S'il devait trouver la porte dont avait parlé Walter, le meilleur moment pour le faire, c'était maintenant, et sous une forme corporelle qui lui permettrait d'avancer à bonne allure, celle de l'araignée. Aussi passa-t-il à côté du cadavre desséché sans un regard pour ficher le camp par la trappe, descendre les escaliers et débouler dans le couloir en dessous. Le passage sentait fortement l'alcali et semblait avoir été creusé dans le lit rocailleux du désert. Toutes les connaissances de Walter, au moins 15 siècles de savoir, mugissaient furieusement dans son cerveau. La piste de l'homme sombre aboutissait à une cage d'ascenseur. Lorsque Mordred appuya de sa pince hérissée de poils sur le bouton monté, rien ne se produisit, hormis un bourdonnement fatigué beaucoup plus haut et une odeur de cuir brûlé derrière le panneau. Aussi l'araignée se mit-elle à escalader le mur intérieur de la cabine, fit sauter la trappe d'entretien de sa patte élancée et se glissa à travers. Il dut forcer un peu et n'en fut pas particulièrement surpris. Il avait sensiblement grossi. Il se hissa le long du câble. La petite bête qui monte, et déboucha sur la porte par laquelle ses sens lui dirent que Walter était entré dans l'ascenseur. Puis, lui avait fait faire son dernier service. 20 minutes plus tard, et toujours tout grisé par ce sang merveilleux, on aurait dit qu'il y en avait des hectolitres. Il atteignit un point où la piste de Walter se divisait en deux. Ce qui aurait dû le rendre perplexe, car par bien des aspects, il n'était encore qu'un enfant. Mais c'est alors que l'odeur des autres se joignit à celle de Walter. Mordred choisit cette voie, suivant désormais Roland et son cas-tête, plutôt que le magicien. Walter avait dû les suivre pendant un moment, puis faire demi-tour pour trouver Mordred et son destin. 20 minutes plus tard, ce galopin se retrouva devant une porte estampillée non pas d'un mot, mais d'un sigle, qu'il déchiffra sans peine. La seule question était de savoir s'il fallait l'ouvrir maintenant ou attendre. Son impatience puérile hurlait en faveur de la première option. Sa prudence croissante plaidait pour la seconde. Il venait de faire un bon repas et n'avait pas besoin de plus de nourriture, tout particulièrement s'il reprenait sa forme d'hume pour un temps. De plus, Roland et ses amis se trouvaient peut-être encore de l'autre côté de cette porte. Et si c'était le cas, et qu'il dégainait en l'apercevant, ils étaient diablement rapides et les balles pouvaient le tuer. Il pouvait attendre. Il ne ressentait aucun besoin urgent au-delà de ce caprice de gosse qui veut tout et tout de suite. Et il n'était certes pas animé de la même haine vivace que Walter. Ses sentiments à lui étaient bien plus complexes, teintés de tristesse et de solitude. Eh oui, mieux valait l'admettre, d'amour. Mordred constata qu'il avait envie de savourer cette mélancolie pendant un moment. Il y aurait de la nourriture à profusion de l'autre côté de la porte, il en était certain, et il pourrait manger, et grandir, et observer. Il observerait son père et sa sœur-mère et ses cafrères, Eddie et Jake. Il les regarderait établir leur campement pour la nuit, allumer leur feu, s'installer en cercle autour. Il observerait depuis cet endroit l'extérieur. Peut-être le sentirait-il et jetterait-il des regards troublés dans l'obscurité, se demandant ce qui s'y cachait. Il s'approcha de la porte, se dressa sur ses pattes arrière et frappa sur le bois par curiosité. Dommage qu'il n'y ait pas un trou de serrure, vraiment. Et il ne courait sans doute aucun danger s'il y allait maintenant. Qu'avait dit Walter déjà ?
que le cathète de Roland avait l'intention de délivrer les briseurs, qui qu'ils soient. C'était dans l'esprit de Walter, mais Mordred n'avait pas pris la peine d'aller le chercher.
« Ils auront tout ce qu'il faut pour les occuper, là où ils débarqueront. Ils trouveront sans doute l'accueil un peu chaleureux. »
« Est-ce que Roland et ses enfants s'étaient fait tuer de l'autre côté, victimes d'une embuscade ?» Mordred se dit qu'il l'aurait senti si c'était arrivé, qu'il l'aurait senti en esprit comme un tremblement de rayon. Quoi qu'il en soit, il allait attendre un peu avant de se faufiler par cette porte, avec son sigleux de nuages et d'éclairs. Et une fois qu'il serait passé, eh bien il les trouverait, et il espionnerait leurs palabres, et il les observerait aussi bien réveillés qu'endormis. Et surtout, il observerait celui que Walter appelait son père blanc, son seul véritable père à présent. Si Walter avait dit vrai au sujet du roi cramoisi qui serait devenu fou. Et pour le moment?
Pour le moment, je vais peut-être dormir un peu.
L'araignée escalada le mur de cette pièce tapissée de multiples objets qui pendaient et se tissa une toile. Mais c'est un bébé, nu, et ayant l'air d'avoir au moins un an, qui s'y coucha, la tête en bas, suspendu au-dessus des prédateurs qui pourraient s'aventurer dans les parages.